VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Lomé, 17h à Bangui et 18h à Bujumbura. On commence par l'actualité africaine. Au Burundi, nouvelle journée d'affrontements mortels ce mercredi. La pression de la rue ne faiblit pas, tout comme l'intransigeance du pouvoir. L'opposition demande le report des élections. Des précisions avec Nicolas Pinault.
Ce mercredi, environ 200 manifestants ont marché dans la ville de Matana, dans la province de Bururi. La police est intervenue et a tiré. 3 manifestants ont été blessés. L'un d'eux est mort peu après en raison de coups reçus à la tête. Plusieurs personnes ont également été arrêtées par la police lors de cette manifestation. Dans les rues de Bujumbura, la police déployée en masse est parvenue pour la première fois à empêcher quasiment toute manifestation. Dans les quartiers de Moussaga, Nyakabiga, Kanyosha et ailleurs, les policiers ont pris position avant l'aube pour prévenir tout rassemblement. Intervenant immédiatement à coups de gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser tout groupe suspect. À une semaine des élections législatives et municipales au Burundi, l'opposition juge impossible la tenue de ces scrutins en raison du désordre et de l'insécurité dans le pays, appelant la communauté internationale à ne pas cautionner ce hold-up électoral annoncé selon elle. Les législatives et les municipales avaient déjà été reportées de 10 jours sous la pression internationale. Suivront en principe une présidentielle le 26 juin et des sénatoriales le 17 juillet. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche en Tanzanie à Dar es Salaam pour tenter de trouver une position commune sur cette crise burundaise.
Élections en Centrafrique récemment reportées. Les élections doivent impérativement se tenir cette année, a déclaré ce mercredi le ministère français des Affaires étrangères, alors que la présidente de transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, est en visite à Paris. Reçue dans la matinée par le président François Hollande, Madame Samba-Panza a de son côté affirmé sa volonté de ne pas indéfiniment aller de report en report, selon ses termes, et d'organiser d'ici la fin de l'année ces élections présidentielles et législatives initialement prévues en août. À ce propos, Madame Samba-Panza a exhorté hier à Bruxelles la communauté internationale à verser l'aide promise au pays qui chiffre à 17 millions de dollars les fonds manquants pour financer le scrutin. La coalition au pouvoir en Éthiopie a sans surprise remporté une écrasante victoire aux élections législatives de dimanche. Selon des résultats encore partiels de la commission électorale publiée ce mercredi, d'après l'AFP, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a en effet d'ores et déjà raflé les 442 sièges pour lesquels le dépouillement est achevé sur un total de 547, a affirmé le président de la commission électorale Merga Bekena. Dans la capitale Addis Abeba, l'EPRDF a remporté l'ensemble des 23 sièges, reprenant à l'opposition l'unique siège qu'elle détenait dans l'assemblée sortante. Le premier ministre éthiopien Haïle Mariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit. Dans le monde, une personne sur 9 ne mange pas à sa faim, soit 795 millions selon le rapport de la FAO publié ce mercredi conjointement avec le PAM et le Fonds international de développement agricole. En un quart de siècle, le chiffre a baissé d'environ 216 millions, sachant que la population a fortement augmenté depuis 1990. 72 des 129 pays suivis par la FAO ont atteint l'objectif du millénaire 2015 qui vise à réduire de moitié la sous-alimentation. Malgré des progrès, l'Afrique subsaharienne accuse encore la prévalence, donc la plus élevée, de malnutrition. Le point avec Luca Russo, économiste à la FAO.
Le rapport sur l'Afrique est un peu mitigé, dans le sens qu'il y a, certains pays où on a eu des progrès remarquables. C'est des pays où on a mis en place des politiques de sécurité sociale et développement importants. Je peux citer par exemple l'Éthiopie ou le Ghana. Mais en même temps, c'est reste vrai que l'Afrique, c'est le continent avec les problèmes les plus marqués. Et ces problèmes sont marqués surtout dans une série de pays que nous, on appelle pays en crise prolongée, c'est-à-dire des pays où il y a une série de différents facteurs, voire conflits, voire questions de sécheresse, voire des questions de politique nationale, font de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de progrès ou aucun progrès dans certains de ces pays. Je peux citer la Somalie, je peux citer le Sud-Soudan, je peux citer la République centrafricaine.
Qu'est-ce que la FAO recommande, notamment en matière agricole ?
La première chose, que l'investissement en agriculture, et surtout dans l'agriculture vivière, et on a une évidence sur ça, porte à des résultats de réduction de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté trois fois majeurs par rapport à des investissements un peu plus, disons, d'ordre général.
Le président malgache Herri Rajao Narimanpianina a contesté mercredi la régularité d'un vote des députés appelant à sa destitution, assurant qu'il était toujours là et estimant que le pays avait besoin de stabilité pour enfin sortir de la crise. Une très large majorité de 121 députés malgaches aurait voté mardi soir la destitution du président démocratiquement élu en 2013, alors qu'une majorité des deux tiers de 101 voix était nécessaire. Ils accusent notamment le président, isolé politiquement, d'avoir violé la constitution du pays et plus généralement d'incompétence. Les regards sont tournés vers la Haute Cour constitutionnelle qui doit désormais se prononcer sur la pertinence de la déchéance votée par les députés, mais aussi le respect de la procédure. L'instance chargée de recenser les crimes commis sous les dictatures en Tunisie depuis l'indépendance du pays a annoncé ce mercredi le début des auditions des victimes des violations des droits humains. Cette institution a pour mission en 5 ans maximum de dévoiler la vérité sur les violations des droits humains commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013 sous le premier président tunisien Habib Bourguiba et son successeur Ben Ali, contraint à la fuite par une révolution en janvier 2011, mais aussi sous certains des gouvernements en place après le soulèvement.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La FIFA a été frappée ce mercredi par un double séisme avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et par la perquisition de son siège à Zurich dans une affaire distincte portant sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Pourtant, l'élection présidentielle lors de laquelle Joseph Blatter, âgé de 79 ans, briguera un cinquième mandat, reste prévue vendredi. Des précisions avec Jacques Aristide.
Parmi les cadres de la FIFA inculpés à la demande du département de la justice américaine figure le Britannique Jeffrey Webb, président de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, et vice-président du comité exécutif Eugenio Figueiredo, également membre du comité exécutif, ou encore Jack Warner de Trinité et Tobago, soupçonné de violations éthiques. Le New York Times rapporte que les charges porteraient sur des opérations de blanchiment d'argent, de rackets et de nombreux détournements de fonds commis sur les 24 dernières années. Les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, mais aussi des contrats de marketing et de droits de retransmission TV, sont notamment remises en cause. Un porte-parole a déclaré que la FIFA coopère pleinement dans cette affaire, confirmant la tenue des élections pour la présidence de la fédération ce vendredi. L'actuel patron Sepp Blatter devrait être élu pour un cinquième mandat.
Guerre contre le groupe État islamique en Irak. Les forces pro-gouvernementales irakiennes continuent leur nouvelle offensive contre le groupe État islamique dans la province d'Anbar. Elles concentrent leur attention sur la périphérie de Ramadi, le chef-lieu de la province occupée par les djihadistes, pour bloquer les lignes de ravitaillement de l'ennemi avant d'attaquer directement la ville. L'offensive a commencé hier avec un soutien accru des États-Unis qui ont réaffirmé leur intention d'appuyer les forces pro-gouvernementales après les doutes exprimés par le secrétaire américain à la défense Archer Carter concernant la détermination des militaires irakiens de se battre contre les djihadistes. Les négociations sur le programme nucléaire iranien entre l'Iran et le groupe des 6 peuvent aller au-delà de la date butoir du 30 juin, a déclaré ce mercredi Abbas Araghchi, un des négociateurs iraniens. cité par l'agence officielle IRNA. Nous ne sommes pas au point où l'on peut dire que les négociations vont s'achever rapidement. Elles vont aller jusqu'à la date butoir et peuvent même continuer au-delà, a déclaré M. Araghchi à Vienne, où un nouveau round de discussion a commencé mardi pour la rédaction d'un accord final avec le groupe D6. Et voilà pour ce journal, le prochain dans moins d'une heure sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.